VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Il est 18h à Ngozi, au Burundi, 16h en temps universel. Bonsoir, bienvenue. Les Burundais étaient appelés aux urnes ce lundi pour élire leurs députés et conseillers communaux. Ce scrutin s'est déroulé sur fond de contestation populaire contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Des violences, jets de grenades et tirs nourris presque toute la nuit hier ont parfois retardé le début des opérations de vote à Bujumbura, la capitale. La participation, plus que le résultat, est la grande inconnue du scrutin. L'opposition boycottant l'ensemble de ces élections générales, largement condamnées par la communauté internationale. Tout se serait bien passé si l'on en croit le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante du Burundi. On écoute Prosper Tarié.
Jusqu'à présent, pas d'incident à signaler. Le matériel était au complet. Les électeurs se sont présentés et nous attendons dans quelques minutes, ce sera la clôture des bureaux de vote et le dépouillement va commencer. Ce problème à signaler, c'était en mairie de Bujumbura dans la matinée. C'était essentiellement un problème de trois ordres. Il y avait le problème de délocalisation des centres de vote qui a dérouté certains électeurs, mais toute la journée, le président de la CENI a donné le message. L'autre problème, c'est qu'il y a eu certains membres des bureaux de vote qui se sont désistés. Il a été question de les remplacer, de les former, ce qui a retardé le début de l'opération de vote. Et puis, le fait de délocaliser les centres de vote a fait que, au niveau de la logistique, ça a demandé beaucoup plus de temps que prévu.
Qu'en est-il de la mobilisation?
La mobilisation, on ne sait pas, on le saura après le dépouillement, c'est là où on verra le taux de participation. Mais d'ores et déjà, l'impression générale, le taux de participation est satisfaisant. À mairie de Bujumbura et à l'été du pays, c'est très satisfaisant.
Prosper Tarié, le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante du Burundi, joint dans la capitale par Bagassi Koura. L'Union européenne et l'Union africaine ont renoncé à observer les élections, estimant que les conditions n'étaient pas remplies pour un scrutin crédible. Les seuls observateurs internationaux, d'après l'AFP, sont ceux de l'ONU, qui a précisé que leur présence ne devait pas être interprétée comme une validation du processus. Le procureur général égyptien Hicham Barakat a succombé à ses blessures aujourd'hui après avoir été la cible d'un attentat à la bombe au Caire, ont annoncé à l'AFP deux ministres. Il est décédé, a déclaré le ministre de la Justice à l'hôpital où le procureur avait été transporté. Un autre ministre a confirmé cette annonce. Le 21 mai, la branche égyptienne du groupe État islamique avait appelé ses partisans à s'attaquer au juge en riposte à la pendaison d'hommes reconnus coupables d'avoir mené des attaques au nom de l'organisation djihadiste. La Tunisie a annoncé aujourd'hui des arrestations, les premières arrestations, en lien avec l'attentat de la semaine dernière contre un hôtel en bord de mer à Sousse. Le ministre tunisien de l'Intérieur a annoncé l'arrestation de plusieurs personnes soupçonnées de lien avec l'homme qui a tué 39 personnes vendredi, en majorité des touristes britanniques. Le ministre n'a pas précisé le nombre ou la filiation des personnes arrêtées.
VOA Afrique en direct de Washington.
Au Tchad, 11 morts, 5 policiers, 5 éléments de Boko Haram et un informateur de la police. Tel est le bilan d'une opération de la police tchadienne tôt ce matin à N'Djamena contre le groupe islamiste nigérian, selon un porte-parole de la police nationale, Paul Manga. Plusieurs ceintures bourrées d'explosifs ont été saisies dans le cadre de ce coup de filet qui fait suite au double attentat du 15 juin dans la capitale tchadienne qui avait fait 38 morts, dont les 3 kamikazes à l'origine des attaques. Avant l'opération de ce lundi, le parquet de N'Djamena avait annoncé le démantèlement d'une cellule terroriste et l'arrestation d'une soixantaine de personnes, dont des Tchadiens, des Camerounais et des Maliens, toujours dans le cadre de l'enquête sur les attentats du 15 juin. En Libye, l'émissaire de l'ONU, Bernardino León, a affiché à nouveau son optimisme, bien que les protagonistes ne soient pas parvenus à un accord dans la nuit de dimanche à lundi. Félicie Passis Zembrou.
Après ces 9 mois de travail, il ne reste que 2 ou 3 points à régler et c'est ce dont les partis vont discuter d'ici mercredi auprès de leurs parlements respectifs, a fait valoir M. Bernardino León. L'émissaire de l'ONU en Libye a évoqué la perspective d'une reprise du dialogue à Skhira au Maroc dès jeudi. La dernière mouture du projet onusien prévoit, d'après l'AFP, la formation pour un an d'un gouvernement d'union avec la désignation d'un premier ministre. En proie au chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye compte 2 parlements et 2 gouvernements qui se disputent le pouvoir, l'un à Tripoli et l'autre à Tobrouk, reconnus par la communauté internationale.
La lutte contre le groupe État islamique, c'est aujourd'hui le premier anniversaire de la proclamation d'un califat dans l'est de la Syrie et le nord de l'ouest de l'Irak par Abu Bakr el-Baghdadi, le leader du groupe Michel Joseph.
Les djihadistes ont profité de la guerre civile en Syrie et du chaos politique en Irak pour prendre le contrôle de plusieurs importantes agglomérations dans la région, notamment leur capitale de facto, Raqqa, en Syrie, et de grandes villes irakiennes comme Mossoul, Ramadi et Fallujah. Les États-Unis ont formé une vaste coalition de pays qui ont effectué en 10 mois 4800 raids aériens contre les djihadistes de l'État islamique. Une campagne de bombardement qui a aidé les troupes irakiennes et des combattants en Syrie à reconquérir du terrain. Mais les progrès sont limités par l'incapacité de l'Irak à lancer une offensive de grande envergure contre les djihadistes. Le président Barack Obama a envoyé des conseillers et des formateurs militaires américains pour aider les forces irakiennes, mais pas des unités prêtes à se battre contre les djihadistes sur le terrain.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
État libre associé aux États-Unis, l'île de Porto Rico dans la mer des Caraïbes est aujourd'hui au bord du précipice. Impossible de repayer sa dette, chiffrée à environ 72 milliards de dollars pour une population de seulement 3,6 millions d'habitants. Le point avec Camille Gros-Didier.
Tout comme la Grèce, Porto Rico est acculé au mur et le gouverneur du territoire crie bien haut qu'il se rapproche du défaut de paiement. Interrogé par le New York Times, il a évoqué une spirale de la mort, la dette du territoire étant impayable à son avis. Porto Rico étant rattaché aux États-Unis, le territoire ne saurait dévaluer sa monnaie, le dollar américain. Des fonds spéculatifs prêts à prendre des risques en échange de taux d'intérêt très élevés sont aujourd'hui les principaux créanciers de la dette portoricaine. Depuis plusieurs mois, il travaille sur un plan B pour sauver l'île, dont les coffres sont vides, le chômage y explose, la criminalité croît et plus de 4% de la population a quitté le territoire ces quatre dernières années, signale l'agence France Presse. Les agences de notation ont placé les obligations de Porto Rico dans la catégorie des junk bonds, c'est-à-dire les obligations pourries jugées à haut risque.
Pour parler sur le nucléaire iranien à Vienne, en Autriche, les deux camps disent s'attendre à ce que les négociations continuent au-delà du délai limite du 30 juin qu'ils s'étaient imposés auparavant pour conclure un accord global limitant le programme nucléaire de l'Iran. Décision confirmée par des officiels américains et iraniens hier. Parmi les points encore en litige, l'accès de l'agence nucléaire de l'ONU au site iranien de recherche et le rythme de la levée graduelle des sanctions contre Téhéran. L'Iran négocie depuis des années avec les 5 membres permanents de l'ONU plus l'Allemagne. 11 soldats afghans ont été tués lors d'une embuscade dans l'ouest du pays, une région d'ordinaire plutôt stable, signe de l'intensité et de l'étendue des combats contre les forces gouvernementales en pleine offensive estivale. La nouvelle attaque a eu lieu dans la nuit de dimanche à aujourd'hui dans la province d'Herat qui borde la frontière iranienne alors que les soldats roulaient en convoi, a indiqué à l'AFP. Et Salnullah Hayat, le porte-parole du gouverneur de la province, cette attaque est survenue au moment où les députés s'apprêtaient à entendre Mohamed Massoum Stanikzai, le candidat désigné par le président Ashraf Ghani au poste de ministre de la Défense, vacant depuis l'élection de 2014. Et vous le savez, je l'ai dit en titre, le procureur général égyptien Hicham Berakat a succombé à ses blessures aujourd'hui après avoir été la cible d'un attentat à la bombe au Caire. Ont annoncé à l'AFP deux ministres. Il est décédé, a déclaré le ministre de la Justice, à l'hôpital où le procureur avait été transporté. Un autre ministre a confirmé cette annonce. Le 21 mai, la branche égyptienne du groupe État islamique avait appelé ses partisans à s'attaquer au juge en riposte à la pendaison d'hommes reconnus coupables d'avoir mené des attaques au nom de l'organisation djihadiste. Et puis en Tunisie, juste à côté, le ministre de l'Intérieur a annoncé aujourd'hui l'arrestation de plusieurs personnes soupçonnées de lien avec l'homme qui a tué 39 personnes. C'était vendredi dernier à Sousse, en majorité des touristes britanniques. Le ministre tunisien de l'Intérieur n'a pas précisé le nombre ou la filiation des personnes arrêtées. Vous écoutez VOA Afrique. Merci de nous avoir suivis. Jean-Roger Billon à ce microphone. Prochain rendez-vous de l'information, c'est dans environ 50 minutes sur la même station VOA Afrique.